Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois de nouveau Rachel Corenville. Bonjour Rachel.
Bonjour Claire.
Qui était venue à peu près
pile à la même date,
à la même date l'année dernière. Et là, elle nous présente deux nouveaux livres aux éditions du Rouergue, dont on va parler avec elle dans quelques instants. Mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos pour vous dire que ce samedi 19 décembre a lieu l'atelier mensuel de poésie à la médiathèque José Cabanis de 10h30 à 12h30 au troisième étage au petit auditorium. Donc l'atelier est gratuit mais il faut réserver pour une question de place. Donc je vous donne le numéro de téléphone 05 62 27 45 69. Je vous rappelle que cet atelier de poésie mensuel est animé par Blandine Poney et le prochain aura lieu en janvier. Ensuite, dimanche 20 décembre à 16h, de nouveau à la médiathèque José Cabanis, au grand auditorium, cette fois-ci au Rez-de-Jardin, a lieu une lecture de contes. Le conte, ce n'est pas que pour les enfants, et oui, tout à fait. Hein. Une lecture donc animée par Michel Inderoch, et qui, le thème sera Les ravis, honneur aux naïfs, aux béats, au bêta et à la sagesse des sots. Donc, c'est pour un public à partir de 12 ans et d'une durée de 1h15 à 1h30. L'entrée est gratuite et comme c'est le grand auditorium, il n'y a pas de problème de place. Vous pouvez y aller directement. Et puis, je terminerai cette page info avec une nouveauté intéressante et prometteuse, puisque depuis fin septembre, Harry Potter à l'école des sorciers, c'est-à-dire le premier tome de la longue série des Harry Potter, est disponible en occitan dans les librairies. Et alors, grâce à l'association Père Nosté, pour sa traduction et après obtention de l'autorisation de la maison d'édition britannique de J.K. Rowling, hein, la maman de Harry Potter, eh bien c'est un an de travail pour les bénévoles de cette association des Pyrénées-Orientales et on souhaite vivement que les autres tomes soient traduits dans la foulée également. Voilà, c'est une belle idée de cadeau pour Noël, je trouve.
Page à page, Claire Ambille.
Poupoupidou. Quand on parle de Noël, cadeau de Noël aussi, il y a les deux livres de Rachel hein, aussi, qui sont des livres à offrir à vos petits et à vos grands. Alors, on rappelle un petit peu, Rachel, tu es née au Québec, hein, à Chicoutimi.
Chicoutimi, près d'une réserve indienne, paraît-il.
Voilà. Et après, tu as vécu ton enfance à Jérusalem, oui. en Israël. Puis après, bon, tu es revenue en France, plus exactement dans le sud de la France, pas loin de la Vallée des Merveilles.
Tout à fait.
Cette fameuse Vallée des Merveilles, aux frontières, près de la frontière italienne. Et puis, bon, bah, maintenant, tu es toulousaine depuis une dizaine d'années.
Oui, c'est ça.
Toulousaine d'adoption, avec une vie de famille, deux petits garçons, Tom et Simon.
Voilà.
C'est ça. Et puis, tu as toujours beaucoup aimé écrire, hein, tu as toujours écrit, hein, finalement. Et hein, comme ta grand-mère te disait, et même ta maman, tu seras écrivain.
Voilà, c'était leurs deux voix unies avec leurs deux accents différents, mais qui s'enchantaient, c'était « tu seras écrivain, ma fille ».
Et ben voilà, donc c'est la destinée toute tracée de Rachel. Et comme métier, donc tu es enseignante et formatrice d'enseignants, en fait.
Hein. Voilà.
Donc, les deux, tu as les deux.
Enfin, cette année, je ne suis plus en formation adulte parce que j'ai obtenu une bourse du CRL.
Pour écrire.
Donc, voilà. Je me suis mise un an.
En disposition
à mi-temps. À mi-temps. Donc, le mi-temps ne me permet plus d'être à l'UFM.
D'accord.
Donc, je suis en classe.
Tu es juste en classe.
Ce qui est juste, oui.
C'est une classe de petits grands.
Non, c'est des CM1, CM2, c'est des grands.
Ah oui, c'est des grands, c'est à l'approche de la sixième.
Ah oui.
Très important. Alors, ta bibliographie, eh bien, le premier roman édité aux éditions du Rouergue, hein, qui finalement reste ton éditeur fidèle, hein, un manuscrit que tu as envoyé comme ça par la poste et qui a été retenu. Donc, c'est Shalom Salam maintenant, hein, c'était en 2007.
Oui.
Voilà. Ensuite, il y a eu L'amour vache en 2007. 2008. Et puis 18 baisers plus 1 en 2008 également, dont tu étais venue nous parler il y a juste un an, avec Lily la bagarre également en 2008. Et puis ces deux nouveaux livres, donc Le métier de papa, collection Zigzag, donc aux éditions du Rouergue. Donc c'est pour les 7-8 ans, je dirais.
Oui, voilà, c'est pour les...
ceux qui commencent à lire, voilà, de 7 à 10. Et puis un second dans la collection Dos à dos noir, faut préciser, Un petit bout d'enfer.
Oui, c'est du noir.
C'est le premier que tu écris dans cette collection Dos à dos noir.
Oui, j'en suis moi-même surprise.
Ah
c'était
oui.
C'était une surprise de l'écrire. Je ne me disais pas, je vais écrire un noir, ça sera du noir. Enfin, c'était totalement. Ça jaillissait. Et la couleur principale, effectivement, c'était le sombre.
Ah oui, 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 il est très sombre. Hein, mais on va commencer, si tu veux bien, par parler du métier de papa.
Oui.
Qui est très original par le thème hein, qui est évoqué dans ce petit livre hein, pour les enfants de 7 à 10 ans, on va dire. Alors, pour nos auditeurs, pour leur donner une petite idée, je vais d'abord lire la quatrième de couverture. Comme ça, tout le monde sera au courant et à la page. Tous les papas ont un métier. Coiffeur, plombier, informaticien, vendeur de pizza. Mais parfois, les papas ont des métiers pas ordinaires. Celui de Magnolia, par exemple, il travaille dans les bals. Il s'habille d'un costume brillant et chante comme Claude François. Et celui de Paolo, eh bien, il est prisonnier. C'est un drôle de métier. Avant, pourtant, le père de Paolo était le plus fort, surtout pour les blagues. Alors c'est le thème effectivement, donc l'histoire, donc c'est le papa de Paolo qui est en prison pour 11 mois, mais Paolo ne sait pas pour quelle raison il est en prison.
Non, il ignore, son père est en prison et il ne sait pas pourquoi. Et ça l'angoisse pas mal, enfin en tout cas il le vit en ignorant son père. Son père n'existe plus pour lui.
Et justement, quand le dimanche arrive et que sa maman se fait toute belle pour aller au parloir pour voir son papa, eh bien lui, il ne veut pas y aller, il ne veut pas l'accompagner, il reste à la maison.
Non, parce qu'il est déçu, voilà. Oui. C'est dur, hein. Enfin, je pense que les plus grandes déceptions et les plus gros chagrins, c'est ceux qui sont dans l'enfance, parce que ça laisse souvent des béances qu'on met, nous, adultes, du temps à réparer et à boucher, hein, ces béances-là. Et là, il est dans cette béance-là.
Et peut-être aussi des déceptions, c'est souvent par des gens qu'on aime, qu'on est déçu aussi, et que ça fait mal.
Oui, mais quand les parents déçoivent, on est dans l'enfance, on est dans ce stade, on est dans une position, on est dans l'admiration, et puis c'est aussi une démarche classique, normale, qu'à un moment, les parents déçoivent, et on peut décevoir un peu, et puis là, effectivement, le papa de Paolo l'a déçu énormément. Donc... L'idée, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut aimer malgré la déception.
Malgré la déception. Ouais. Alors, heureusement, dans la vie de Paolo, il y a Magnolia. Alors, c'est une de ses copines d'école. Et donc, dont le papa chante...
Chosie de Claude François.
Voilà. Donc, elle l'invite à un concert que donne son papa. Et donc, qui est transformé en Claude François pour la soirée. Et qui a connu le papa de Paolo dans son enfance. Voilà, qui était son voisin. Puis, ils ont été à l'école ensemble. Et donc, il va parler avec Paolo de son papa. Ouais. Et ça va déclencher quelque chose. Hein,
l'envie de revoir son père, en tout cas. L'envie de savoir qui est son père, parce qu'il le décrit comme quelqu'un de très drôle. Il en fait une image dont Paolo n'avait plus cette image-là. Et donc, il a envie de revoir son père.
Qui était drôle, qu'il aimait raconter des blagues, etc. Et ce qui fait que le dimanche suivant, eh bien, Paolo en fait, va accompagner sa maman au parloir pour voir son papa.
Oui.
Et donc moi j'ai beaucoup aimé. Alors, Salomé, ma petite fille de 7 ans et demi, l'a beaucoup aimé aussi. Je le lui ai fait lire parce qu'elle aime beaucoup lire, et elle a beaucoup aimé le personnage de Paolo, puis de Magnolia aussi. Et c'est vrai que...
Mais je voulais qu'il y ait un contrepoids, parce que c'est vrai que c'est un peu triste.
Oui, sinon c'est un peu...
Et Magnolia représente le feu, la joie, le Claude François, Alexandra, toutes les chansons.
Les paillettes,
le kitsch absolu. Et la vie, c'est ça, c'est un mélange de gravité et de kitsch.
Bah, tout à fait. Moi, je trouve que ce livre, c'est un mélange d'humour, de tendresse et puis de réalité aussi. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Paolo n'est certainement pas le seul petit garçon à voir son papa en prison.
Je pense que ce n'est pas le seul papa à être déçu. C'est pas le seul enfant, pardon, à être déçu de son père.
Voilà. De manière générale.
De façon générale. Ce n'était pas forcément le thème de la prison. C'était surtout le thème de la déception. Et comment est-ce qu'on peut surmonter ça? Et comment est-ce qu'on peut pardonner? Comment est-ce qu'on peut aimer malgré tout? C'est le aimer malgré tout. Et il y parvient, Paolo. Voilà, c'était ça. C'était sur cette note positive qu'on peut aimer et pardonner et avancer dans la vie.
Et l'amitié joue un rôle important.
Et puis l'amour, parce qu'à mon avis, il aime bien Magnolia.
Oui, c'est ce que ma fille m'a dit. Elle me dit, oh, Paolo et Magnolia, je les sens bien.
Ah, moi aussi.
Voilà, oui, toi aussi. Puis c'est le thème de la vie tout court, hein, je dirais, avec ses joies, ses peines, ses difficultés. Et puis... sa foi en la vie.
Mais la vie, c'est ça, c'est tomber et se relever, ensemble.
Oui, ses espoirs, etc. Et puis, il faut signaler aussi que ce livre est très, très bien illustré par Nicolas Bottereau.
Oui.
Je trouve que les illustrations collent parfaitement au texte, à ton texte. J'ai trouvé qu'il était vraiment, vraiment très, très bien. Les dessins sont très jolis, sont très nets, sont très précis. Il est c'est tout en noir et blanc. Mais j'ai trouvé que c'était très frais et puis que c'est surtout que ça colle parfaitement bien au texte.
J'ai une grande chance avec les illustrateurs, avec Lilia Bagar aussi, Julia Vauter, c'est Nicole. Ce sont deux jeunes illustrateurs et c'est vraiment, j'ai eu de la chance. Ils ont fait de très beaux dessins.
Eh bien, oui, tout à fait.
Je t'en suis ravie.
Oui, oui, oui. Et puis, donc, dans ce livre, il y a aussi de l'humour. Moi, je veux dire, j'ai beaucoup souri quand on lit l'expression « la moumoute à querelle ». Alors, oui. Ça m'a fait beaucoup rire. La moumoute à querelle,
c'est souvent cette sorte de couverture un peu fripée, voilà, qu'on laisse sur le canapé.
Qui est vieille depuis, qui est très vieille, voilà. Mais qu'on aime par-dessus tout.
On s'enrobe dedans, et puis quand on est en couple, souvent, c'est l'endroit où on va dormir sur le canapé, et on ne peut pas dormir.
Oui.
Et voilà, c'est...
Il y a la moumoute à querelle.
Il y a la moumoute, dans laquelle on s'enrobe après une dispute pour finir la nuit.
Donc c'est le papa de Paolo, voilà, qui a nommé cette couverture fétiche de la maman « Moumoute à querelle ». Puis il y a de la poésie aussi avec, par exemple, « Maman a vendu la voiture pour payer l'avocat et depuis, elle dit qu'on use nos semelles sur le bitume de la vie ». C'est joli. J'aime bien, ça me parle. Je trouve que c'est joli le bitume de la vie, d'user ses semelles sur le bitume de la vie.
Bah, c'était cette image-là, il s'use, en tout cas la maman s'use.
Oui, c'est sûr. Et puis de la tendresse aussi avec « Maman me récupère et on s'éloigne de la prison et même dehors, j'ai l'odeur de mon papa dans le nez
».
C'est...
Vous voulez que ce soit charnel, la retrouve.
Oui, oui, ils se retrouvent, ils ne sont pas vus depuis longtemps. Et puis bon, un parloir, c'est pas un lieu très propice à la tendresse, aux élans, etc. Et donc, il repart plein de son papa, finalement. Donc c'était, Et puis il y a le clin d'œil, bien sûr, à Clo-Clo.
Ah ben oui.
À Claude François, indémodable, éternel, universel, et ses chansons toujours aussi vivantes, finalement, après tant d'années. Et d'ailleurs, tu dis à la fin du livre que tu aimes chanter. Alors voilà, on sait que Rachel aime chanter sous la douche.
Partout, je casse les pieds à tout le monde.
Dans les embouteillages, quand t'es dans ta voiture, voilà. Et que Claude François, tu chantes souvent du Claude François.
Ou du Jodassin, c'est horrible.
Mais non, c'est très bien.
Non, parce que moi, je viens d'une culture punk rock. Tous mes amis sont, c'est du punk rock, on écoute du rock. Et quand je leur dis que je chante du Claude François ou du Jodassin, en général, c'est une honte absolue que je dois taire. Là, je me suis dit non, j'avais assumé par-delà le rock et le punk, le Claude François et Jodassin.
Avec donc le prénom de Magnolia qui a été choisi par rapport à la chanson Magnolia.
Mais une petite anecdote, j'étais dans un salon et une bibliothécaire vient me voir et me dit « Mais vous savez, ma fille s'appelle Alexandra ». C'était ça, c'était à quel point Claude François nous a marqué, une génération.
Oui. Donc, c'est un très joli prénom, Manuela, d'ailleurs. Donc, la fin est pleine la fin de ce livre est pleine de promesses hein, et d'espoir. Et puis, on voit qu'il y a eu un changement hein, significatif qui s'est opéré chez Paolo.
Oui, hein,
par
il
rapport
a pardonné.
À la vision de son père, voilà. Et la dernière phrase résume tout ce changement et cette nouvelle approche des choses, finalement. Ça résume très
oui.
bien. Hein, la fin, la dernière phrase est une chute.
À la fin, on lui demande s'il veut être... On joue et on lui demande s'il veut être voyou ou policier.
Policier.
Il ne peut pas choisir voyou, il ne peut pas choisir policier.
Ben,
il choisit d'être Claude François.
Voilà, il dit, voilà, je vais être Claude François. Voilà, tout en regardant Magnolia qui danse et qui chante un peu plus loin.
Voilà.
Moi, j'ai trouvé vraiment ce livre très, 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 très beau, quoi, très sympathique. Et donc, c'est un beau cadeau de Noël à offrir aux petits. C'est facile à lire, hein, en plus. Hein.
Oui.
Voilà, il y a les illustrations. Et voilà, le thème de la déception qu'un enfant peut éprouver face à un de ses parents. Bon, bah là, en l'occurrence, c'est le papa. Et voilà. Alors, on passe au second, alors qui est beaucoup plus... qui est vraiment très noir. Hein.
C'est autre chose.
Collection Dohado, collection noire, un petit bout d'enfer. Alors moi, j'aurais mis un gros bout d'enfer, parce que...
Ah oui,
c'est prenant. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre, bon, j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est un livre très noir, très tendu, très prenant et puis parfois violent hein, aussi. Il y a de la violence hein, dedans. Et puis qui amène et qui entretient une certaine réflexion. Hein. Quand on le referme, ça reste quand même un peu dans l'esprit pendant quelques temps. Hein. Ce n'est pas un livre qu'on referme et hop, on va cueillir des fraises. C'est
surtout pas dans la forêt.
Oui, oui, encore plus, encore moins dans la montagne noire. Donc c'est moi je trouve qu'on en ressort un peu chaos quoi de ce livre.
Mais je l'ai écrit un peu sous une tension absolue.
Ah ben ça se ressent. Hein. La tension, tu l'as communiquée dans les pages.
À la limite, je dirais tant mieux parce que c'était ça que je voulais dire et ça que je voulais transmettre. En même temps, je voulais aussi transmettre beaucoup de. Je voulais écrire quelque chose sur le fait que cette part inconnue de nous qui nous amène à explorer des zones qu'on ne connaît pas et qu'on soit adulte, ado, c'est ce borderline. Je voulais qu'on soit dans un moment borderline.
Un peu le côté obscur de chacun.
Oui, et comment est-ce qu'on peut en sortir indemne quand on franchit cette limite-là.
Alors, il y a beaucoup de suspense, parce que le suspense est entretenu, si je puis dire, avec la construction très originale des chapitres alternés hein, entre le récit de Juliette et puis le récit sur l'homme.
Hein. De Jules, oui.
Voilà, de Jules. On saura qu'il s'appelle Jules
à la fin.
Et donc, sur le passé, sur du présent. Enfin, c'est un peu tout mélangé, mais alterné, les chapitres sont alternés, donc ça maintient un certain suspense qui est très prenant. Alors, pour nos auditeurs, l'histoire, donc en quelques mots, c'est une adolescente en crise, hein, on va dire elle est en crise, hein, Juliette, qui veut être grande hein, et qui veut faire comme si elle avait 16 ans alors qu'elle n'en a que 14. Hein, Et puis c'est l'histoire d'un homme aussi, au passé difficile et puis brisé par son présent hein, finalement. Et puis, on va savoir qu'il s'appelle Jules à la fin de l'histoire. Et puis, et qui l'entraîne même jusqu'à la folie. Hein, c'est un peu la démence.
Il décompense, il pète un plomb,
comme on peut dire. Et puis donc leurs destins se croisent, hein, parce que Juliette, adolescente, et puis cet homme, leurs destins se croisent, l'espace d'un film dans une salle de cinéma. Et puis c'est leurs deux solitudes qui finalement se rencontrent et se heurtent et qui donnent cette tension.
C'est exactement ça, c'est leurs deux solitudes qui se rencontrent
et se heurtent, parce que ça provoque...
Et se mélangent, se fusionnent et c'est leur histoire totalement différente qui en fait les rend à un moment donné les rend proches. Voilà,
les rend proches alors qu'ils sont très éloignés finalement.
Oui.
Et c'est ça qui provoque cette tension dans la lecture de ce livre, je trouve. Cette confrontation des deux solitudes.
Mais je voulais pas qu'il y ait un méchant et une gentille. C'était pas l'idée de le méchant qui kidnappe et voilà, je voulais qu'on comprenne l'homme, qu'on soit au plus intime de lui, qu'on comprenne quelqu'un qui dégoupille comme ça, qu'on le comprenne. Et voilà, c'était ça surtout l'idée. Et puis avec cette idée aussi que voilà, Juliette, elle a 14 ans, qui n'a pas menti sur son âge, hein,
ah, oui,
elle,
c'est du vécu,
grande.
Ça, Rachel.
Non. Mais par contre, j'ai passé un été avec la fille d'un ami qui avait 13 ans, qui disait à tout le monde qu'elle en avait 16. C'était marrant, c'était drôle. Donc je m'étais dit, je vais garder ça dans un coin. Et
oui, parce que souvent on voit les films interdits aux moins de 16 ans aussi.
Ah bah, hein, oui.
Voilà. Donc,
ça oui, ça c'est du vécu.
Ah, ça
oui,
c'est
ah
vécu.
Bah, oui,
oui,
aussi,
oui, voilà. Et donc moi j'ai beaucoup aimé la dernière phrase de ce livre. Qui résume un peu, quelque part, le souvenir que va garder Juliette, hein, de toute cette histoire. La phrase, c'est le long soupir des arbres qui chantent la mort.
Oui.
J'ai beaucoup aimé cette phrase.
Parce que je voulais aussi qu'il y ait quelque chose avec la nature. Dans l'homme, il est complètement... c'est comme tu disais, la montagne noire. Pour moi, la montagne noire, c'est un lieu mystique. Tu sais, quand on passe le long de l'autoroute et qu'on voit au fond cette masse sombre, avec souvent des nuages qui sont accumulés au sommet, c'est quelque chose d'un peu dantesque dedans. Et donc, ouais...
Les arbres, voilà,
les arbres
et
une sorte de fusionnel avec la nature et un reflet de leur état d'âme. Parce que là, c'est une montagne noire.
Enfin, oui,
voilà, tout est là-dedans.
Tout est
quoi.
Noir, oui,
avec
ça va
les
bien
chansons,
avec le...
Alors, c'est vrai qu'on se promène, quand on se promène dans la montagne noire, c'est terrible, tu sais, c'est vraiment sombre, avec il y a des arbres immenses, et c'est assez terrible.
Donc c'est un destin un peu qui bascule, je dirais, et qui entraîne dans sa chute d'autres destins, hein, c'est un peu on peut dire ça, et on peut aussi trouver une allusion à certains faits divers d'il y a quelques années.
Par rapport à les enlèvements ou...
Oui, par rapport à tous... des faits divers, il y en a tous les jours.
Oui, il y en a tous les jours.
Voilà, et c'est ce qui se passe dans ce livre, ça a pu, c'est certainement arrivé, et malheureusement, ça pourra peut-être arriver encore.
On entend aux informations un homme qui tue sa famille, qui pète les plombs, qui s'enferme avec le GIGN. J'avais vu un reportage comme ça avec le GIGN qui entourait une maison avec un gars qui était... Je suis partie de ça. Je suis partie aussi d'un autre truc. Je suis partie de, tu sais, les grands complexes CGR, enfin, sans faire de publicité, mais ces grands complexes un peu impersonnels où on se retrouve des fois tout seul dans une salle.
Oui.
En fait, il n'y a personne.
C'est vrai que ça peut être. Mais moi, je pense que la prochaine fois que j'irai au cinéma, je regarderai qu'il y ait bien des gens autour de moi.
Mais moi, ça
que je ne sois pas seule dans la salle.
Oui, mais ça m'est arrivé. Gamine, j'étais très tôt au cinéma toute seule. Et je me souvenais que je me suis retrouvée dans les salles toute seule. Et j'avais une angoisse, c'est terrible, en même temps c'est génial.
Oui, c'est le mélange des deux,
voilà.
À la fois c'est génial, puis à la fois ça fait peur.
Voilà, parce que t'es dans ce monde totalement artificiel, puis t'es plongé dans une histoire aussi, tu sais que tu vas t'abstraire de la réalité. C'était ce lieu-là que je voulais absolument décrire.
Eh ben c'est tout à fait bien décrit, on le ressent très bien, je te dis. Je pense que la prochaine fois que j'irai au cinéma, je regarderai bien autour de moi. Alors, c'est divisé en quatre parties, hein, ce livre,
oui.
Avec une première partie qui raconte, où Juliette se raconte à la première personne.
Oui.
Ensuite, la deuxième partie, c'est le récit présent et la réalité, on peut dire, avec les histoires qui vont se rejoindre, et puis le hasard, par le hasard des destins, et puis donc ces deux personnages qui vont se rencontrer, c'est-à-dire Juliette et puis l'homme qui s'appelle Jules, dans une salle de cinéma, comme on le disait. La troisième partie, on apprend des choses sur le passé de l'homme, hein, des fragments de vie, de sa vie d'enfant, qui a été difficile, hein, qui a été douloureuse. Et puis, donc, pour un peu expliquer pourquoi il en est arrivé aussi à péter les plombs. Et puis la quatrième partie, c'est le retour au présent, à la réalité, avec une réalité assez atroce, hein, avec la montagne noire, Juliette, un autre garçon aussi, et puis le dénouement final, dont on ne livrera pas ici le...
Non, on ne dira rien.
Voilà, c'est un secret, il faut lire le livre, il faut lire le livre. Mais donc c'est divisé en quatre parties,
oui.
Et donc je trouve que c'est bien d'alterner les chapitres comme ça, où il y a Juliette qui parle à la première personne, l'homme où on raconte ce qui est arrivé à cet homme, au présent. Hein. dans son présent et ce qui a pu le faire basculer dans, ben, dans cette folie.
Mais je crois que c'est lié à ma pensée. Je pense que je n'arrive pas à penser de façon linéaire. Et donc, le texte n'est pas linéaire. Il est comme ma pensée, il est par flash et par image. Et c'était ça, c'était, tu sais, passer d'un moment à un autre, un peu comme dans un film.
D'accord.
Où tu es dans la subjectivité des personnages. Et voilà, je pense que c'est plus lié à ma façon tordue de penser qu'une volonté délibérée de
en
faire...
En tout cas, le suspense est bien maintenu grâce à cela, grâce à ta pensée comme ça. Mais en tout cas, c'est bien rendu dans le livre. Alors, comme on arrive bientôt malheureusement à la fin de l'émission, donc Un petit bout d'enfer, collection Dos à dos noir aux éditions du Rouergue, écrit par Rachel Corenblit. Et puis Le métier de papa aux éditions du Rouergue, collection Zigzag pour les un peu plus petits et illustré par Nicolas Bottereau. Et puis alors, la question pour terminer cette émission, eh bien, quel projet as-tu, Rachel? De nouveaux livres, bien sûr,
alors,
j'espère.
Il y en a un qui sortira l'automne prochain, je pense, qui s'appelle Ceux qui n'aiment pas lire. Voilà, c'est l'histoire d'enfants qui n'aiment pas lire.
Et il y en a.
Et il y en a oui. Beaucoup. Hein. Mm-hmm. Et du coup, ils vont... Ils vont faire des choses surprenantes. Ils ils ont un rapport au livre et du coup, ils vont se lâcher dans une bibliothèque.
D'accord.
Et
ça sera édition du Web également,
toujours
et collection Zigzag. Donc voilà. Pour les 7-10 ans, on va dire.
Il correspond aussi à l'attribution de la bourse du CRL. Hein. D'ailleurs,
D'accord.
C'est qui m'a permis de.
C'est un très
de
beau l'écrire. Thème, la lecture, pour redonner goût à la lecture aux enfants, parce que.
Ouais, puis voilà, et puis des fois on rencontre des gens, enfin, en tant qu'instit, on me pose souvent, je vois des parents angoissés qui me disent « Ah là là, mon enfant n'aime pas lire !» Donc voilà, c'était pour dire que c'était pas, voilà, qu'on peut arriver à la lecture, on peut y arriver.
Donc tu reviendras nous parler donc
ceux qui n'aiment pas lire.
Voilà, dans l'année prochaine. Et là, si tu écoutes la chanson, on va se quitter sur une chanson dont tu parles dans Un petit bout d'enfer.
Oui.
C'est une chanson de U2
oui,
qui s'appelle « With or Without You » et qui t'a...
qui était, que j'écoutais.
Que t'écoutais en écrivant.
Oui.
Et on se retrouve pour Page à Page, on se retrouve le jeudi 4 janvier, oui,
ben, bonne vacances.
Ce sont les fêtes, hein,
bonne fête.
Voilà. Donc on se retrouve le 4 janvier sur Radio Occitanie, et puis toi on se retrouve l'année prochaine avec ce nouveau livre, peut-être un livre pour adultes un de ces jours.
Je ne me pose pas la question déjà.
Bon, reste comme ça, Rachel. Moi, j'aime bien lire tes livres pour la jeunesse, donc il n'y a pas de souci. Merci à toi d'être
Merci
venue
à toi
et
de m'avoir
on se
invité.
Quitte avec YouTube. Et je vous dis à l'année prochaine et bonne fête à tous. Et lisez et achetez des livres et offrez des livres. Adiciats.